VOA Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon, 18h à Brazzaville, bonsoir et bienvenue. Au Congo Brazzaville, des opposants ont été placés en résidence surveillée en dépit de la victoire du oui au référendum constitutionnel. C'est le cas de l'ancien ministre Guy Brice Parfait-Kolela, un farouche opposant au troisième mandat pour le président Denis Sassou Nguesso. Idriss Fall a pu le joindre dans sa résidence assiégée de Brazzaville. On écoute Guy Brice Parfait-Kolela.
Je suis toujours en résidence surveillée, ça fait plus d'une semaine, depuis le 20 octobre. Mais je suis privé de mes mouvements parce que je suis entouré par la garde présidentielle, armée jusqu'aux dents, Kaboulé, qui ne nous laisse pas sortir du périmètre de ma résidence et qui laisse à peine rentrer les vivres pour qu'on me ravitaille avec les 30 compagnons qui sont ici à la résidence, moi qui étais venu me voir, je suis retrouvé ici, bloqué. Entre-temps, j'étais ici en résidence surveillée avec le vice-président du Conseil économique et social, un membre de notre mouvement et puis un notaire aussi. Mais eux, ils ont été libérés. Et c'est moi, seul avec mes 30 compagnons, qui sommes restés en résidence surveillée.
Guy Brice Parfait-Kolela, opposant congolais. En Centrafrique, le nouveau chronogramme électoral fixant les dates des scrutins législatifs et présidentiels sera examiné demain par les parties prenantes avant d'être soumis au chef d'État de la CEAC. Mais pour l'heure, ce calendrier n'est pas encore définitif, comme l'a souligné le rapporteur général de l'ANE, Julius Rufin Guadet Baba, joint à Bangui par Félix Zembro.
Il n'est pas encore définitif. Nous sommes en phase de consultation avec les principaux acteurs que sont les partis politiques, les organisations de la société civile et encore d'autres représentants des pouvoirs publics. Mais voilà, ce sont les dates que décline ce calendrier, le 13 novembre pour le premier tour des élections législatives et présidentielles combinées.
Et quand est-ce que vous pensez que ce calendrier sera définitif?
Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, les consultations avec les forces vives de la nation ont déjà commencé. Nous avons eu une première séance qui s'est très très bien passée il y a deux jours. Nous aurons une deuxième rencontre demain, lors de laquelle nous recueillerons les avis des uns et des autres qui nous permettront, ces avis-là, de finaliser le document que nous avons préparé.
Julius Rufin Guadet Baba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections. En Tanzanie, les résultats de la présidentielle sont connus. Le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, l'emporte. La commission électorale l'a annoncé ce jeudi. Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 58,46% des suffrages exprimés contre 39,97% rival, l'ancien premier ministre et camarade de parti Edouard Lowassa, qui a rejoint les rangs de l'opposition.
VOA Afrique en direct de Washington.
7 djihadistes ont été tués mercredi soir lors d'affrontements avec l'armée malienne dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources au gouvernorat de Mopti et au ministère malien de la Défense. Selon le responsable au ministère de la Défense, les affrontements se sont déroulés dans une zone boisée à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. La forêt des Tiébada, où les islamistes tentaient d'installer une base. Maintenant, place au dossier de ce journal. Les Burkinabés commémorent ces 30 et 31 octobre 2015, le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors qu'il était resté indéboulonnable pendant des décennies, deux jours d'insurrection ont suffi fin octobre 2014 à le contraindre à abandonner le pouvoir et à prendre la fuite après 27 ans de règne. Guy Hervé Cam, porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen, revient sur la chute de Blaise Compaoré.
À l'époque, nous étions convaincus d'une chose, c'est que Blaise Compaoré devait partir. C'était d'ailleurs notre slogan « Blaise dégage ». Mais pour dire les choses franchement, non, nous ne sommes pas convaincus que ça pouvait se jouer en 48 heures. Nous avons dit que la lutte pouvait être longue, mais quel que soit le temps que ça devait prendre et quelles que soient les conséquences, dès lors que Blaise Compaoré avait lancé son projet, pour nous, il n'était plus légitime et il fallait qu'il parte. Mais bon, il faut avouer que les choses se sont réellement précipitées.
Alors, avec du recul, comment on peut expliquer cela?
Ben, je pense que ce qui est allé au-delà des attentes de tout le monde, c'est vraiment la mobilisation générale du peuple burkinabé. On savait que, dans sa grande majorité, le peuple n'était pas prêt pour ce mandat de trop, mais on n'avait pas du tout, sans doute, prévu que ce peuple-là allait comme un seul homme, et toutes couches confondues, se mettre dans la danse. Je pense que c'est l'ampleur de la mobilisation qu'a nous-mêmes. Nous avons vu ça le 28, nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais.
Alors, ça fait un an déjà, hein. Ce que représente pour vous cet anniversaire-là, les dates du 30 et 31 octobre?
Ben, je pense que cet anniversaire a pris encore de l'ampleur avec les événements que nous avons vécu à un peu plus de un mois. Donc, qui fait que nous restons convaincus que les événements des 30 et 31 octobre sont en réalité le résultat de la maturité politique du peuple burkinabé, mais surtout de l'attachement du peuple burkinabé à la démocratie. Je pense que un an après, c'est vraiment ce sentiment-là qui peut animer.
Alors, la transition a connu beaucoup de difficultés, mais est-ce qu'elle a répondu à vos attentes, aux attentes de la jeunesse burkinabé?
Pour nous, la principale mission de la transition, c'était de jeter les bases de la refondation de la société burkinabé. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On peut se dire qu'elle aurait pu faire encore mieux, mais j'avoue qu'en un an, le plus important, c'était de jeter les bases. Le plus important, c'était des réformes. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions choisi une transition de un an, en lieu et place d'une transition toute élection où on allait faire les élections dans deux mois ou trois mois. De ce point de vue-là, je pense que la transition a fait beaucoup de choses et il reste encore quelques détails à régler, c'est-à-dire la question de la modification de la Constitution. Si ça s'est fait avant de transmettre le pouvoir à une autorité élue, je pense que la transition aura réussi.
Guy Hervé Kam, porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un avion cargo avec environ 10 membres d'équipage à bord s'est écrasé en Somalie dans un territoire contrôlé par les islamistes Shebab aux abords de la capitale Mogadiscio, selon des sources gouvernementales. L'accident a eu lieu mercredi dans la localité d'Omar Béré, à quelques 45 km au sud de Mogadiscio. Aucune information n'a été fournie sur la nature de la marchandise transportée par l'avion. La cause de l'accident n'était pas non plus connue, selon l'AFP. Un détenu de la prison militaire américaine de Guantanamo a été transféré à Mauritanie, son pays d'origine, a annoncé le Pentagone jeudi. Il s'agit de Ahmed Ould Abdelaziz, qui aurait prêté allégeance, d'après Wikileaks, à Oussama Ben Laden en 1999 et combattu en Afghanistan dans les rangs d'Al-Qaïda. Il était considéré comme l'une haute valeur potentielle sur le plan du renseignement, ayant approché des hauts cadres d'Al-Qaïda, même s'il n'a pas coopéré lors de ses interrogatoires. La Chine va permettre à tous les couples d'avoir deux enfants. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le comité central du Parti communiste. Cette décision met un terme à des décennies de politiques restrictives, limitant la plupart des familles urbaines à un enfant. Jacques Aristide.
Beijing annonce donc à la fin de la politique dite de l'enfant unique, en vigueur depuis 1979. La décision a été prise lors du 5e plénum du comité central du PCC, qui a pris fin aujourd'hui, après 4 jours de travaux. La proposition fait partie du 13e plan quinquennal de la Chine pour la période 2016-2020. Le gouvernement chinois avait déjà assoupli certaines restrictions en novembre 2013, quelques mois après l'arrivée de Xi Jinping à la tête du pays, permettant chinois d'avoir deux enfants si l'un des deux parents était lui-même enfant unique. Mais nombre de couples éligibles n'avaient pas pris avantage de cet assouplissement, invoquant les dépenses et la pression d'élever des enfants dans une société hautement compétitive. La politique de l'enfant unique prévoyait de lourdes amendes et de sévères punitions pour les couples qui enfreignaient la loi, y compris l'avortement forcé, des mesures devenues au fil des années une source de mécontentement en Chine.
Jacques Aristide, nous sommes presque arrivés au terme de ce bulletin d'information diffusé depuis la Voix d'Amérique à Washington. John Lyndon à la présentation. Nous vous donnons rendez-vous dans 20 minutes avec Plus d'infos, ce sera le magazine Le Monde aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.